Entame ton après-midi en douceur avec un grain d'inspiration et un nuage de singularité. Au Café des Métiers, tu découvriras la face cachée de certaines professions, tu envisageras une nouvelle vocation ou tu te reconnaîtras dans le partage de l'invité du jour. Motivation, difficulté, doute, espoir et passion. Installe-toi et laisse-toi embarquer par le Café des Métiers, tout de suite, sur Prune. You may have the money, but you've got to go. It's sensible, and those endless seasons that go on and on, incredible. But I'd sooner get out.
À toutes et à tous et bienvenue au Café des Métiers. Moi c'est Charlotte et tous les mercredis on se retrouve pour découvrir les coulisses professionnelles de l'invité du jour. Et si nous parlions aujourd'hui de ces artistes de l'encre qui transforment la peau en véritable toile, faisant du corps une œuvre d'art? Parfois pour ancrer son histoire, mettre en lumière sa singularité, ou au contraire appuyer ses convictions et affirmer sa personnalité. Peu importe l'âge, la culture ou l'époque, le tatouage peut représenter un point d'ancrage, qui plus est un langage. Que vous soyez tatoué, tatoueur, tatoueuse ou simplement intrigué par cet univers, laissez-vous embarquer par cet échange avec Julien Audot, tatoueur nantais depuis 25 ans. À travers le prisme de son expérience, nous allons tenter de saisir les rouages de son quotidien et l'évolution de son image au fil des générations. Bonjour Julien.
Bonjour Charlotte.
Et bienvenue au Café des Métiers. Merci à toi de venir nous partager.
Merci de l'invitation.
À l'origine, toi, tu es de formation CAP boucher.
Absolument.
Qu'est-ce qui t'a amené dans l'univers du tatouage alors ?
Oula, ce qui m'a amené là, c'est depuis tout gamin, je voulais me faire tatouer. C'était pas spécialement, c'était plutôt un sujet de discorde familiale, mais je voulais me faire tatouer comme beaucoup à l'époque, du reste. Et puis un jour je me suis fait un tatouage tout seul, et puis un jour quand j'avais 18 ans, je suis allé me faire tatouer. Je me suis fait tatouer plusieurs fois comme ça, et puis un jour au fil des rencontres, je suis tombé sur un tatoueur qui a accepté de me coller une machine dans les mains, et puis c'était parti.
À quel âge tu as fait ton premier tatouage ?
Alors, mon premier tatouage...
Que tu as fait seul ?
Mon premier tatouage que j'ai fait seul, il doit dater de janvier 2001 peut-être, ou quelque chose comme ça. Ouais.
D'accord.
Alors j'ai commencé, je me suis fait mon premier tatouage sur moi, d'abord. Donc un mois avant, et puis un mois après j'ai commencé à tatouer. Les copains, les copines,
Puis l'expérience s'est faite petit à petit.
C'est ça.
Quelle image avais-tu du tatouage au début ? Qu'est-ce qui t'attirait dans ce monde ?
À l'époque, le tatouage, c'était encore quelque chose de très marginal. Moi, mon grand-père était policier. Pour lui, le tatouage, c'était très mal vu. Donc c'était, il y avait ce côté marginal qui m'attirait. Et puis... le fait que justement tout le monde n'allait pas dans cette direction-là à l'époque. Au contraire, on avait même tendance à freiner les deux pieds quand on passait devant un shop de tatou. Et moi, ça m'attirait justement.
Et tu saurais dire pourquoi ?
Non. Après, j'avoue que ce qui m'a donné envie de me faire tatouer à la base, mon père, il avait des bousilles sur les bras, donc des tatous à la con qui s'étaient fait à l'époque où il était à l'armée. Il avait une rose des vents à moitié effacée, et puis il avait deux lettres sur l'avant-bras, et je me suis toujours dit qu'un jour je me ferais tatouer. C'était quelque chose d'assez naturel pour moi de pousser la porte d'un studio de tatouage.
D'accord, donc cette image justement un peu marginale qui t'a attiré au début, cette image j'imagine a évolué en 25 ans.
C'est sûr, à l'image en fait du premier shop dans lequel je me suis fait tatouer à l'époque chez Dimitri à Saint-Germain-en-Laye, Donc c'était 6 cours du Lion d'Argent encore, c'était une toute petite boutique dans le fin fond d'une cour. Enfin, ça avait un côté déjà, rien que pousser la porte du studio, fallait le chercher, fallait le trouver,
fallait savoir ce que c'était là.
Et maintenant, effectivement, les shops, il y en a à tous les coins de rue. Voilà, donc c'est tout à fait à l'image en fait de l'évolution du métier. C'est-à-dire qu'à l'époque, il fallait les chercher, les shops de tatouage. Mmh. Hein, si on voulait se faire tatouer, déjà, on n'avait pas beaucoup de choix. Maintenant, il faut les chercher, les rues où il n'y a pas un studio de tatouage.
C'est vrai.
Ou un tatoueur qui tatoue chez lui en toute illégalité.
Ouais, il y a de plus en plus de tatoueurs, tatoueuses.
Voilà.
Est-ce que tu aurais repéré des éléments justement qui ont favorisé cette évolution du tatouage ?
Bah, les éléments, c'est tout simplement c'est devenu un phénomène de société. Il y a d'abord eu une émission de télé sur le sujet, puis une émission de radio, puis des reportages dans les magazines, et puis des webzines qui en parlent, et puis des fanzines qui en parlent, et puis les footballeurs se faisaient tatouer, les stars se faisaient tatouer. Ça a été un phénomène culturel quasiment, je vais pas dire mondial, mais occidental en tout cas.
Ouais, on en voyait de plus en plus. Ouais. Et selon toi, pourquoi les gens se tatouent en général ? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher à travers cet axe ?
Ça dépend des gens. Il y a autant d'histoires derrière de tatouages que de tatouages. Il y a ceux qui vont se faire tatouer juste par esthétique, parce qu'ils trouvent le motif joli. Il y en a qui vont se faire tatouer parce qu'ils ont quelque chose à faire marquer sur leur peau, que ça soit quelque chose de sympa ou de beaucoup moins sympa. On a des histoires... qui nous sont racontées des fois, qui sont des histoires assez lourdes, qui sont des histoires marquantes, et on est content finalement de faire partie de l'histoire de ces gens-là en fait. C'est un côté très très plaisant, ouais, parfois de partager ces moments-là, même si c'est un instant T. Et puis,
c'est un instant T, mais c'est quelque chose qui reste à vie.
Bah oui, bien sûr.
Et c'est un moment assez fort aussi.
C'est ça, ouais.
Et est-ce qu'on peut parler de thérapie un peu par le tatouage dans certains cas ?
Bah oui, bien sûr, complètement. Je pense que oui, sans aucun doute. J'en suis moi-même l'exemple même. C'est-à-dire que le tatouage a été ma thérapie, que ça soit d'un point de vue client, c'est-à-dire en me faisant tatouer, ou d'un point de vue professionnel en me mettant à ancrer la peau des gens et puis à faire partie de leur histoire.
Est-ce que tu penses que c'est parce que le tatouage permet de visualiser, de rendre concret parfois des souvenirs plus douloureux ou des événements de vie pas simples ? Et là, le fait de les marquer, on les voit sur notre peau.
C'est ça. C'est-à-dire qu'on traverse parfois des moments difficiles. Et dans ces moments difficiles, on peut effectivement avoir envie d'exorciser ce moment-là pour s'en dépêtrer en fait. Et des fois, le fait de faire un tatouage, alors ça marche pas à tous les coups, hein, mais des fois, le fait de faire un tatouage effectivement permet de sortir une image de sa tête pour la mettre sur sa peau.
Le Café des Métiers. Un ou une invitée, une foule d'expériences.
Et en parlant de projets tatouages, il y a des personnes comme ça qui veulent marquer des moments importants de leur vie. Et parfois aussi, il y a des personnes qui font ça pour le côté artistique, pour le côté joli. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de refuser des projets de tatouage ?
Ah oui.
Est-ce que tu te fixes des limites concrètes dans ta tête à ce niveau-là ?
Ah oui. Après, j'ai envie de dire... C'est pareil, ça fait partie du deal de l'évolution du métier. C'est-à-dire que il y avait des tas de choses qu'on refusait. Quand j'étais jeune tatoueur, je voyais ça faisait partie du métier. Les anciens, ils refusaient quand ils n'avaient pas envie de faire, ça les saoulait, donc ils faisaient pas.
Ça peut être pour quelle raison, par exemple ? Une pièce trop grande, une pièce
à un endroit inapproprié, parce qu'à l'époque, moi je refusais les avant-bras quand j'avais ma boutique en 2001. Je refusais que les jeunes se fassent tatouer les avant-bras, se fassent tatouer les poignets, se fassent tatouer le cou.
Pourquoi ? Parce que trop sensible, ces endroits ?
Non, parce que il y a 25 ans,
l'image du tatouage n'était pas la même.
L'avis de la société sur le tatouage n'était pas le même. Donc effectivement, j'avais tendance à refuser de tatouer, par exemple, les mains sur quelqu'un qui n'avait pas les bras lardés de tatouage. de tatouer les avant-bras quelqu'un qui n'avait aucun tatouage ailleurs. Il y avait une certaine déontologie qui a dû s'adapter, qui a dû évoluer.
Avec la société.
Avec la société, parce que au début, en fait, j'en parlais tout à l'heure, il y avait moins de shops. Comme il y avait moins de shops, il y avait moins de choix. C'est-à-dire que le tatoueur, il disait « Non, je te ferai pas ta merde », le gars ou la gonzesse rentrait chez lui ou chez elle, réfléchissait et puis se dire « Bon, le tatoueur qui est à côté de chez moi, c'est celui-là, je ne vais pas faire 500 km pour aller chercher un autre tatoueur, donc je vais réfléchir les choses autrement. Maintenant, si on dit à quelqu'un « Je te ferai pas ta merde », il va aller voir dans le shop d'à côté, où il aura probablement deux rues à faire avant d'en trouver un autre, pour pouvoir trouver quelqu'un qui lui fera ce qu'il a envie de lui faire. Ça fait partie du deal, en fait, de toute cette évolution qu'il y a eu dans le métier. Ouais.
Et c'est là où l'enjeu pour toi, c'est de rester fidèle à tes valeurs et te dire, ok, je perds un client potentiel, mais par contre, moi, je reste, je reste en accord avec mes limites que je me suis fixées. Et...
J'ai été obligé d'évoluer. J'ai pas eu le choix.
Donc aujourd'hui, tu acceptes plus des choses que par exemple avant ton
Bien sûr, exemple, tatouer un avant-bras, maintenant, c'est quelque chose de commun, de courant, même pour un premier tatou, ce qui n'était pas le cas il y a encore 20 ans. C'était des choses qu'on voulait éviter.
Et comment tu définis tes prix quand tu es tatoueur? Sur quelle base? Sur le matériel, le temps? À dessiner aussi, la pièce.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le tatouage, à faux titre, les gens pensent que le tatouage, on ne paye que le tatouage. Mais non, on va payer. Alors, le matériel, c'est quelque chose d'assez, finalement, désuet, le prix du matériel dans le fait de faire un tatouage. Mais on va faire payer une expérience, on va faire payer les heures de dessin à la maison, on va faire payer les charges, on va faire payer donc les charges sociales, on va faire payer le loyer du shop dans lequel on est, l'électricité. Enfin bref, je vais pas refaire tout le décompte. Tout le monde fonctionne comme ça, que ce soit au niveau d'un magasin ou même au niveau chez soi. C'est-à-dire qu'on a des charges à payer.
Tout à fait.
Et du coup, tout ça en fait partie.
Et comment tu peux expliquer que certains tatoueurs, tatoueuses sont plus chers que d'autres?
Parce que peut-être que tout simplement, ils ont... Alors certains, parce qu'ils ont une expérience... Qui est plus importante. Quand on a 25 ans de métier derrière soi, je trouve ça un peu normal qu'on se fasse pas payer la même chose que quelqu'un qui a un an de métier derrière lui.
Il y a une expertise.
Voilà, il y a une expertise qui est là. Et puis il y a aussi la demande. C'est-à-dire que si quelqu'un est très demandé parce qu'il fait un style qui plaît beaucoup, au bout d'un moment, il va pouvoir se permettre d'augmenter ses prix parce que... Voilà. Et puis, il y en a qui ont tout simplement répercuté. Le prix d'un loyer dans le centre-ville de Nantes n'est pas le prix d'un loyer dans une petite ville de la Creuse. Donc, le prix du tatouage va forcément s'en ressentir.
D'accord. Donc, ça peut jouer de l'expérience du tatoueur, de la localisation,
énormément de choses,
du shop. D'accord. Et si, par exemple, là, demain, j'ai envie de me faire tatouer le dos entier, par quel processus tu vas passer pour m'accompagner? Si je ne sais pas du tout ce que je veux me faire tatouer, est-ce que tu proposes des dessins?
Déjà, honnêtement, si tu pousses la porte d'un tatouage en me disant « je vais me faire un dos complet, mais je ne sais pas ce que je vais me faire tatouer », déjà, tu vas retourner chez toi.
Ouais, pour mûrir l'idée.
Voilà. Parce que si tu viens me voir, il faut que tu aies une idée. C'est-à-dire que tu peux me demander de te faire un excellent repas. Si je n'ai pas les ingrédients pour faire le repas, on ne va pas aller bien loin. C'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'aller voir un tatoueur en lui disant... en tout cas, venir me voir moi, parce que je ne vais pas me généraliser, mais en me disant « je vais me faire un tatouage, mais je ne sais pas quoi faire », oui, effectivement, c'est mal partir. Ouais.
Donc déjà, tu laisses la personne mûrir l'idée, et ensuite, si elle vient avec plus d'idées.
Alors, si elle vient avec plus d'idées, on va faire le tri, on va essayer de savoir les éléments qui vont primer sur les autres, ce qu'on va mettre en avant-plan, ce qu'on va mettre en arrière-plan, le style, on va commencer à faire... Alors, des fois, on fait un montage d'images.
D'accord.
Qu'on va trouver n'importe où sur le net ou autre. On va faire un montage d'images pour se donner une idée.
Ça aussi, du coup, ça a joué dans l'évolution de ton métier, j'imagine, Internet.
Oui, Internet et puis...
les logiciels aussi de montage.
Tout, que ce soit au niveau du dessin, au niveau du matériel, au niveau de tout ça. Effectivement, maintenant, moi, je travaille que sur tablette. Oui.
Au début de ta carrière, tu faisais tout sur papier?
Tout.
D'accord.
Ouais. Tout. Puis quand j'ai eu ma boutique, j'avais pas d'imprimante, j'avais pas de, pas de thermocopieuse. Quand le gars arrivait et que le motif était trop gros, bah, il fallait que je le revoie une semaine, deux semaines après, le temps que je trouve une photocopieuse pour réduire, pour refaire mon stencil que je faisais à la main.
C'est quoi le stencil ?
Le stencil, c'est le papier carbone sur lequel on va reproduire le dessin pour pouvoir le poser
sur la peau après. Ouais. D'accord. Voilà.
Donc ça, c'était des choses qu'on faisait à la main. Donc, ouais, effectivement, c'était...
C'est un gain de temps aussi aujourd'hui.
C'est un gain de temps énorme, mais qui laisse plus de temps finalement pour développer le dessin. C'est pour ça, je pense d'ailleurs, ça fait partie peut-être de ça, l'évolution graphique qu'il y a eu dans le tatouage de ces dernières années, parce qu'on s'est libéré d'un fardeau. Moi, quand j'ai commencé à tatouer pendant très longtemps, on soudait les aiguilles. Hein. Les aiguilles, on les achetait par boîte de 1000 et puis il fallait les mettre ensemble et puis faire la stérilisation, faire l'ensachage, faire la sté donc, avec l'autoclave classe B, tout dater, tenir un carnet de sté. Les aiguilles, les buses, c'est pareil, c'était des buses en inox. Donc en fin de séance, fallait tout brosser, tout nettoyer, tout remettre en sachet, tout restériliser, tout renoter, patati patata. Donc finalement, toutes ces heures qu'on passait à faire de la soudure, du nettoyage, de la stérilisation et compagnie, en s'en affranchissant, on avait plus de temps pour dessiner. Et avec l'avènement de la tablette, on s'est mis à avoir de plus en plus d'outils pour dessiner. Et maintenant, avec les IA, on a encore d'autres outils.
C'est vrai.
Voilà. Donc
tu dessines plus aujourd'hui qu'au début de ta carrière ?
Je dessine plus. Non, je ne vais pas dire que je dessine pas, quoique si. Quoique non. Non, je dessine les moments où j'ai dessiné le plus, c'était vraiment les 10 premières années de ma carrière. 10-15 premières années de ma carrière.
D'accord.
Je passe mon temps à dessiner. Maintenant, je passe moins mon temps à dessiner.
Tu refais plus les mêmes ou...
Non, parce que j'ai des automatismes, des mécanismes, des choses qui viennent plus vite que... Ça tombe plus vite que ça ne tombait avant.
Ok. Et donc, pour revenir au processus de... un client veut se faire tatouer, par exemple, le dos entier.
Donc,
après la phase de préparation un petit peu du dessin, comment ça se passe ?
Là, on a mis on a mis au point un croquis ou au moins un montage qui permet de donner une idée générale du motif. Ensuite, un premier rendez-vous est fixé. En général, quand c'est pour un dos complet, on a tendance à en coller quelques-uns avance.
Pour faire en plusieurs fois.
Voilà, parce que c'est des projets qui peuvent durer 8, 10, 12, 15 séances, tout dépend des projets.
D'accord.
Donc voilà, on fixe un rendez-vous et puis en général, il y a quand même une mise à disposition du dessin sur des grosses pièces comme ça. Il y a quand même une mise à disposition du dessin un ou deux jours avant, histoire de pouvoir échanger
et être sûr que ce soit ce que la personne recherche aussi.
C'est ça. Et puis c'est parti, c'est séance après séance.
Ok. Est-ce que quand tout est fini, il y a un dernier rendez-vous après pour être sûr qu'il n'y a pas des modifications à faire ?
Il y a la retouche.
Il
n'y a pas de retouche automatique, mais on demande aux gens de repasser au bout de 3 semaines, 1 mois pour vérifier que tout s'est bien passé déjà.
D'accord.
Et puis que si jamais il y a des retouches à faire, les faire le plus tôt possible pour qu'il n'y ait pas de différence de pigment.
Ouais.
On ne fait pas les retouches un an après, sinon,
d'accord.
Sinon ça fait tâche.
Ok. On va partir sur une petite pause musicale maintenant avec un morceau choisi par toi, Julien. On écoute Naufragé de Douce Kawa.
Douce Kawa, freestyle, l'incruste, studio, je fais un petit freestyle, les potos. Yo. J'ai dans le cœur une tarentule que l'eau salée a dû noyer. Les naufragés se parlent en bulle, tombés du râteau en noyé. Dans la mélancolie bercée, sans perdre le bord un instant, où les Danaïdes vont verser. Tout autour de toi l'océan, le vent violent nous crie dessus. Et l'océan nous broie la peau quand on croit voir le poil hirsute d'un drapeau au mât d'un bateau. Les naufragés sont sans rivage, à moins de le voir en mirage. Et l'injustice de ce monde a créé un monstre sans visage. Je crois que chaque pute a son prix, et que leur éthique est louable. Je me quitte de moi incompris. Comme un solitaire incroyable, tu vois que l'espoir est morné. Mais on est borné, morné, il reste à regarder nos vies de manifestants éborgnés. Les naufragés sont trop chargés, chacun d'un collier de remords. Se laisse enfoncer sans nager, espérant faire un heureux mort. Mais les piégés sont en chemin, et déjà à peine elle partait, que j'étais déjà orphelin, radeau de la méduse en papier. Thank you. naufragés, remontez, allez. Vous allez prendre froid, je vois vos lèvres cyanosées. L'hélicoptère éclaire le détroit, le temps m'a tué, me porte en sang. Dans la fumée du porte en sang, je sais pas combien de puberté ont pu assassiner d'enfants. Je guérirai, c'est sûr. Rangez vos croix, bizarroïdes. Déjà je vois que se suture mes cicatrices, kéloïdes, liquide, céphalo-rachidien. Viens dans mes lymphes inédites. Mais le deuil n'aura jamais lieu, comme chez tous les mélancoliques. Je l'entends crier en silence, comme dans un hurlement sanglote. Dans un palais de résilience, l'âme de ma princesse sanglote. Une armée militaire sans bottes flotte comme portée par le courant. Recherche aux fusées de détresse, ce qui ressemble aux survivants. Je sais pas si elle est trop zen ou si elle m'attriste. Cette satire, ça fait comme la première nausienne sur le piano d'Eric Satie. Je sens qu'on m'attrape sous les aisselles et qu'on me tire hors de la flaque. Si les secouristes me réveillent, il serait peut-être temps que je me rattrape.
C'est Charlotte et on est toujours au Café des Métiers sur Prune avec Julien, tatoueur nantais. Pourquoi avoir choisi cette musique, Julien ?
Il y a des musiques qui interviennent. Alors déjà, Douskawa, c'est un rappeur que j'affectionne tout particulièrement. Et voilà, et ce morceau est sorti à un moment de ma vie qui me... Enfin, ça me parle, en fait. Ce morceau me parle beaucoup, hein. Autant en termes musical qu'en termes de paroles, en termes d'intensité sonore. Mmh. Voilà, ça me parle beaucoup.
Mais comme le tatouage, il y a des morceaux qui nous marquent comme ça, qui ont un sens pour nous. Ouais. Est-ce que d'ailleurs, vous écoutez de la musique pendant les sessions tatou, ouais.
Toujours.
Ok.
Ouais. Je suis un gros consommateur de musique. Ouais.
D'accord. Ça crée aussi une atmosphère, peut-être pour faire diversion à la douleur, si certains sont plus sensibles que d'autres.
Ça permet de lancer les discussions, de créer des contacts,
ouais.
Des affinités parfois, même avec des gens.
Ok. Donc toi, Julien, tu as eu plusieurs shops, c'est les salons de tatouage, en fait, le nom
j'en ai eu deux,
qu'on donne.
Bah, à moi, que j'ai fait, que j'ai fondé, moi j'en
d'accord.
ai eu deux, effectivement.
Donc deux shops différents, dans deux villes différentes, en plus tu me disais, Paris et Nantes. Oui. Parfois de devenir auto-entrepreneur d'un métier passion, comme ça peut changer un peu son rapport au métier. Est-ce que tu saurais partager des clés qui t'ont permis toi quand même de perdurer dans ce domaine-là ?
Ah bah c'est la passion déjà.
La passion,
c'est ça,
ouais.
La passion, c'est ça qui tient. On y sacrifie beaucoup de choses. Le tatouage et la passion de façon générale n'est pas pour rien dans certains de mes échecs personnels. Ouais.
Mmh.
Hein, on a tendance parfois à ne pas voir les choses qu'on a devant les yeux parce que on a cette espèce d'obsession qui nous fait dire continue,
ouais.
Continue. Et oui, effectivement, les personnes qui nous accompagnent dans la vie quotidienne peuvent... Alors, il y en a qui arrivent très bien à concilier ce genre de choses, d'autres qui n'y arrivent pas.
Donc, tu parles de gérer le temps de vie professionnelle et le temps de vie plus personnel.
C'est ça. Après, j'essaye toujours de faire au mieux. Hein, j'ai quatre enfants. J'ai deux grandes de 16 et 12 ans. J'en ai deux qui ont 4 ans d'ailleurs aujourd'hui même.
Bon anniversaire.
D'ailleurs, bon anniversaire mes petits amours. Et puis on se voit tout à l'heure, papa. Il vous fait des gros bisous. Donc voilà, oui, effectivement.
Pas toujours facile, ouais. Pas toujours facile. Vie
pas toujours facile. Et puis je vous dis, les personnes qu'on va avoir en face, c'est difficile pour eux aussi parce que. Quand on est soi-même dans le milieu du salariat, qu'on a cette espèce de sécurité, ça peut être parfois compliqué, effectivement, de comprendre qu'en face, il y a une insécurité. Il y a une insécurité toujours au niveau pécunier, au niveau... J'ai fait un très bon mois ce mois-ci, et puis le mois d'après, c'est la tuile.
Ouais.
Donc il y a toujours cette espèce d'incertitude que certains, malheureusement, ont plus de mal à gérer, et qui fait que, ça peut créer des tensions au niveau du couple, et puis mener à une rupture, à l'inévitable, quoi.
Même si je n'aime pas vivre avec les regrets, pour moi, chaque expérience nous nourrit d'une certaine manière, même quand c'est compliqué. Mais je vais quand même te poser la question, s'il y a des choses que tu aurais pu faire différemment, qu'est-ce que tu aurais changé ?
Non, ça dépend des phases. Après, j'ai envie de dire, j'ai pas la certitude que si je changeais quoi que ce soit, j'aurais une vie finalement meilleure. Et voilà. Par contre, j'ai la certitude que si je changeais quelque chose au début de ma vie, ça pourrait influer sur le fait justement d'avoir eu le parcours que j'ai eu, d'avoir mes enfants, d'avoir rencontré les gens que j'ai rencontrés, d'avoir vécu les belles choses que j'ai vécues. On ne sait pas où les choses nous mènent. Donc finalement, je pense que je ne changerais pas grand-chose, voire je ne changerais rien du tout.
Okay.
C'est, voilà. J'ai eu la vie que j'ai eu une vie jusqu'à présent, j'ai 47 ans, donc j'ai encore un petit peu de choses à vivre. Mais jusqu'à présent, j'ai eu une vie riche. Une vie pleine de belles choses, des choses que j'aurais pas vécues si j'avais pas été tatoueur. Voilà. J'ai vécu des années fantastiques dans les conventions, dans les fêtes, les machins. J'ai vraiment vécu des tas de choses que des tas de gens n'ont pas vécues et ne vivront jamais. Mmh. Alors, évidemment, il y a des tas de gens qui ont vécu d'autres choses que moi, je ne vivrai pas. Mais ces choses-là, je les ai vécues. C'est mon passif, c'est mon passé. C'est le genre de choses auxquelles je m'accroche et puis je ne changerai rien. Voilà, même si effectivement, à toute médaille, il y a un revers. Donc,
tout à fait. Voilà. Et tu parlais des conventions et de toutes les rencontres que tu as pu faire. Quel est le rapport entre les tatoueurs, tatoueuses en général ? Il y a de la concurrence, voilà.
C'est des humains.
Pas tant.
C'est des humains, on est tous des humains. Alors, à plus forte raison des artistes. Il y a effectivement il y a des gens qui sont très bienveillants. Toujours dans le partage. Il y a des gens qui sont tout à fait détestables et obséquieux. Des gens qui sont prétentieux alors qu'ils n'ont pas de raison de l'être. Des gens qui sont d'une humilité incroyable alors qu'ils ont toutes les raisons de se montrer. Parce qu'eux sont talentueux. Il y a des gens bien, il y a des gens cons. Bah c'est
comme partout,
c'est le reflet de la société, bien sûr. Ouais.
Est-ce qu'il y aurait un tatouage ou un ou une cliente qui t'aurait marqué particulièrement ou un parcours ?
Ça serait presque manquer de respect à tous les autres que de choisir une rencontre, en fait. C'est-à-dire que presque 25 ans, j'en ai tatoué des gens. J'en ai déroulé des kilomètres de peau. Mais j'ai fait des rencontres incroyables, encore une fois. Des gens qui ont accepté de partager leur vie avec moi.
Leur peau.
Si je pourrais peut-être parler quand même d'une petite personne. C'était une petite dame de 74 ans qui est arrivée à l'époque où je travaillais au studio 54. Elle est arrivée pour avoir un tatouage. Elle voulait une petite rose. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui fait que tu attends aussi longtemps ? Et cette petite bonne femme qui avait été garde-barrière toute sa vie, qui est arrivée penchée comme une équerre, relever la tête et de me dire, j'ai 74 ans, j'ai toujours voulu me faire tatouer une rose, mais mon mari, il n'a jamais voulu. Maintenant qu'il a crevé, je fais ce que je veux.
D'accord. Effectivement, c'est atypique comme expérience. Mais elle a bien raison. Il faut concrétiser ses rêves. Il n'y a pas d'âge. Bon, on va devoir s'arrêter là. C'est passé très vite, Julien. J'ai une dernière question pour toi. Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail ? Est-ce que tu as un compte, un site ?
Alors oui, on peut me retrouver. C'est J'y suis pas.
D'accord. Je mettrai le lien sur le podcast de l'émission. J'y suis pas.
On pourra me trouver comme ça. Et puis voilà, je peux dire le nom du shop.
Bien sûr.
Oui, voilà. Ouais. Donc vous pouvez me trouver aussi chez Criminal Kiss à Savenay.
Eh bien, merci beaucoup, Julien, pour ton partage très inspirant et émouvant aussi, je l'avoue. On te souhaite plein de beaux projets pour la suite. Quant à nous, chers auditeurs, auditrices, on se retrouve mercredi prochain à 13h30 sur Prune pour le rendez-vous du Café des Métiers et tous les jours en podcast sur prune.net. En attendant, je vous souhaite une belle après-midi. Travaillez bien, aimez ce que vous faites, faites ce que vous aimez et surtout prenez soin de vous.